Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et comme chaque lundi, une fois par mois cette année, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité est...
Yaël Braun-Pivet.
Yaël Braun-Pivet. Alors je ne vais pas lui demander de se définir, puisque vous la connaissez probablement. Yaël Braun-Pivet est notre députée de la 5e circonscription de Sartrouville, des Yvelines exactement, qui regroupe Sartrouville et d'autres villes des environs. Elle est aussi présidente de la commission des lois à l'Assemblée et souvent présente pour parler de son activité, de ses actions et du gouvernement. Et donc on va parler aujourd'hui de bonheur en fait. On va pas parler de politique. Même si, bien sûr, la politique est au cœur de tout ce que nous faisons tous de la politique sans le savoir. Et en étant citoyen et intéressé par notre environnement, ben, nous faisons tous aussi de la politique. Yaël, à quoi ressemble votre bonheur aujourd'hui ?
Mon bonheur, c'est d'être en famille, c'est de savoir que tout le monde va bien, que tout le monde est épanoui. Et c'est vrai que... les années passant, les années s'écoulant, mon bonheur devient de plus en plus simple et de plus en plus fait finalement d'humanité et du bonheur des autres en fait.
Alors c'est ce que la maturité apprend sur le bonheur, c'est ça ?
Peut-être, c'est de se dire qu'effectivement, il ne faut pas forcément chercher le bonheur très loin ou dans des aventures extraordinaires, et que finalement, le bonheur ça se construit tous les jours auprès de ceux qu'on aime.
Et être aujourd'hui femme en politique, est-ce que c'est du bonheur ?
C'est du bonheur parce que c'est un engagement extraordinaire, parce que vous pouvez être utile, vous servez les gens, vous servez vos concitoyens, vous servez votre pays. Donc ça, c'est un bonheur. Après, c'est un univers qui est difficile et donc je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un univers qui rend pleinement heureux. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur d'être utile et de servir.
De plus, être élu, être présidente de la commission des lois, on est au contact aussi des difficultés des personnes. Qu'est-ce que ça nous renvoie aussi sur notre propre bonheur ?
Ça permet de relativiser en fait. Ça permet de relativiser et de faire que c'est... vous dites toujours qu'il y a des situations qui sont difficiles, que d'autres sont dans la peine, sont peuvent être dans la misère, peuvent être dans la maladie, peuvent être dans la souffrance. Et finalement, quand vous vous regardez ou que vous regardez les autres, vous vous dites « bon, moi ça va pas si mal ».
Donc une façon de relativiser, une façon aussi de porter un regard différent sur ce que nous vivons, c'est ça ?
Oui, et puis ça vous permet de voir où est l'essentiel, où distinguer l'accessoire de l'important. Et je pense que c'est une des clés du bonheur.
Essentiel, le mot est lâché aussi, hein, parce qu'en ce moment on parle beaucoup aussi de cet essentiel qui nous manque. Je parle des personnes qui s'occupent de la culture, des personnes qui nous donnent aussi du divertissement, qui nous aident aussi à vivre mieux et qui ne peuvent pas aujourd'hui exercer leur art et qui sont considérés comme non essentiels. Et pourtant, c'est important, l'art dans votre vie, dans votre notion du bonheur.
C'est important, oui, parce que on est tous pétris de musique, de littérature, de tableaux, de cinéma, etc. Et que forcément, ça nous manque. Après, moi, aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, je trouve que ce qui manque le plus, c'est tous les petits bonheurs. C'est les petits bonheurs de la soirée entre amis, du verre en terrasse avec un copain. C'est toute cette légèreté qui fait que finalement avant c'était des choses très anodines et qui aujourd'hui finalement vont nous manquer terriblement, ces petits moments de complicité avec les autres.
Alors comment vous les compensez ?
J'essaye de les compenser déjà avec les miens, donc je suis de plus en plus envahissante vis-à-vis de mes enfants et de ma famille. Après, je pense que Je les compense aussi en essayant d'aller dehors, en marchant, en s'ouvrant au monde en fait, puisqu'on a une période très confinée où on est tous un peu sur un mode métro, boulot, dodo. Et donc je crois que le fait de continuer à s'ouvrir au monde dans les limites qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est essentiel.
Alors plutôt que métro, boulot, dodo, moi ce qui me venait à l'esprit c'était visio, boulot, dodo. Comment est-ce qu'on garde le lien avec toute cette technologie qui nous permet quand même de se voir, de se parler, mais pas de se toucher?
En même temps, cette technologie, elle nous a rendu bien des services. Elle a fait qu'on a pu continuer à partager des moments, à travailler, à être en relation les uns avec les autres, à faire aussi, dans la période la plus sombre du Covid, à faire que notre démocratie fonctionne, puisque nous avions à l'Assemblée nationale continué nos travaux en visio. Donc je crois que c'était essentiel. Et puis c'est vrai, on a passé beaucoup d'anniversaires en visio Même si c'est mieux que rien, c'est quand même absolument tragique.
Oui, c'est un pis-aller, bien sûr. Mais ça nous permet quand même de garder le lien. Je pense qu'on a aussi appris pendant cette période qu'on avait des ressources insoupçonnées. Qu'est-ce que ça vous a appris, justement, sur le bonheur, cette période ?
Que ça nous a obligés, je crois, chacun à revenir sur soi, et à arrêter de courir pour chercher justement le bonheur ailleurs. Ça nous a obligés à chercher le bonheur dans sa vie quotidienne, dans son entourage proche, dans ses réflexions. Et je crois que ça nous a appris beaucoup d'humilité, beaucoup de et en même temps, ça nous a ouvert des opportunités finalement infinies. Donc je pense, après c'est ma vision toujours optimiste des choses, qui considère qu'il y a toujours quelque chose de bon dans tout malheur. Et ça nous a appris, je crois aussi collectivement, à beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'attention aux autres, peut-être qu'on en manquait, et c'était important à ce moment-là de dire aux gens qu'on les aimait, mais de dire aussi à son voisin qu'on pouvait aller lui faire ses courses, qu'on pouvait, voilà, que chacun pouvait faire un petit geste pour l'autre, et cette période a été, de ce point de vue-là, assez magique, je crois, et on a tous des anecdotes, des histoires à raconter sur ces élans et ces moments de solidarité que la crise sanitaire a fait naître.
Beaucoup de créativité, beaucoup de solidarité. C'est important aussi qu'on garde de cette période les drames. Beaucoup, ils continuent encore à perdre des êtres chers. Hein. Je pense que, on parle de statistiques, elles sont un peu froides, ces statistiques. Hein. Quand on donne le nombre de personnes décédées, c'est à chaque fois des drames personnels, des drames familiaux, et des personnes parties toujours forcément trop tôt. Mais c'est aussi toute cette richesse relationnelle qui est aussi née, d'abord de la prise de conscience, de ce besoin de relations très profondes et des moyens qu'on a tous trouvés, chacun à notre façon, pour quand même continuer à garder le lien. Le bonheur, c'est donc la relation.
Oui, pour moi, c'est vraiment la relation à l'autre. C'est ce qui fait qu'on fait société, quel que soit le niveau et le cercle qui est en cause. Mais oui, la relation à l'autre, c'est le bonheur.
Et vous le disiez, c'est aussi la relation à soi. Parce qu'on s'est aussi redécouvert pendant cette période et on continue à se découvrir.
En fait, je crois que de toute façon, pour être heureux, il faut bien se connaître, il faut s'accepter, il faut s'aimer. C'est important.
Ouais, bien sûr, ça commence là, toujours. Je fais un geste, hein, ça commence dans notre cœur, dans notre ventre, ça commence là. Commencer par soi, la relation à soi qui nous donne cet élan vers l'autre. Et c'est vrai, comment accepter l'autre et comment... avoir confiance en l'autre si déjà on n'a pas confiance en soi et si on ne s'accepte pas soi-même. Bien, on va bientôt arriver vers la deuxième partie de notre émission et toujours au milieu, je propose un titre choisi par mon invité. Et ce titre aujourd'hui, il m'a beaucoup parlé, j'ai réécouté, presque redécouvert, mais redécouvert sous un autre prisme en fait. D'abord le prisme de l'engagement, qu'il soit associatif, qu'il soit politique. On reprend peut-être, non ? petit changement, de bonnette de micro. Donc l'engagement associatif, parce que moi je vous ai d'abord connu comme directrice des Restos du Cœur, tout près de chez moi, et c'est un sujet que je connais bien aussi, puisque avec le Lions Club on intervient régulièrement pour les collectes des Restos du Cœur. Mais c'est aussi cet engagement aussi de vouloir changer la vie. Et c'est peut-être ce qui a guidé votre choix pour cette chanson.
Ouais, c'est une chanson qui me donne la pêche, qui est très positive, qui effectivement parle d'engagement et parle d'engagement, quel que soit la sorte d'engagement et le niveau d'engagement, et considère que le professeur, l'artisan, quand il s'engage pleinement dans sa mission, bah, il peut changer la vie d'une personne, de dizaines de personnes, peut-être de milliers de personnes quand on a un autre niveau. Mais voilà, changer la vie des gens en accomplissant une mission, une tâche, travail bien fait.
Et c'est une mission courageuse aussi. Je pense à cette... je ne peux pas ne pas écouter cette chanson aujourd'hui sans y penser comme un hommage aussi à Samuel Paty. On va passer le titre.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Qu'un tout petit bonhomme, malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit en temps de larmes et de douleurs, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris.
Non, nous venons d'écouter Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman. Un titre important pour vous ?
Oui, et l'autre jour, je le réécoutais et il m'a fait penser à mon grand-père, qui est un homme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était un immigré polonais, juif polonais, qui est arrivé en France dans les années 30. Et mon grand-père était tailleur. Et lorsque j'étais enfant, j'allais en vacances chez lui et j'allais dans le magasin. Et dans le magasin, je le voyais couper les morceaux, travailler à la craie, vous savez, pour tracer le patron. Après, il avait un mannequin sur lequel donc il pouvait épingler, il travaillait, et donc il façonnait des costumes, des robes, et avec beaucoup de soin, beaucoup de précautions, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de patience et beaucoup d'amour du métier. Et c'est aussi ce que dit cette chanson, c'est que voilà, c'est important, le travail bien fait, quel que soit son niveau, le travail bien fait.
Vous avez vécu à l'étranger en suivant en général votre mari, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Poste. Et donc vous avez connu d'autres cultures. Cette expérience de vie à l'étranger vous a appris sur le bonheur ? Parce que bien sûr, le bonheur, c'est aussi un regard différent suivant les différents lieux du monde.
Déjà, le fait que quand vous partez à l'étranger, moi j'ai eu la chance de partir avec ma famille, vous déplacez votre maison, vous êtes comme une tortue, vous posez à un endroit dans le monde avec votre univers, et que finalement, même si tout est chamboulé, vous avez quand même votre socle est avec vous, et finalement c'est ça qui compte. Après, j'ai beaucoup vécu en Asie, au Japon et à Taïwan, et ce que j'ai appris du bonheur là-bas, c'est le lien avec la nature, avec le temps qui passe, le fait d'apprécier chaque saison, d'apprécier chaque floraison de fleurs, d'apprécier chaque moment traditionnel, d'avoir ce rythme-là qui scande une année, et qui fait que vous êtes en harmonie avec l'univers qui vous entoure. Je crois que les Chinois et les Japonais, pour cela, sont vraiment, ont vraiment cette attention, cette culture, cette histoire qui est vraiment, en tout cas, qui pénètre toute leur société et toute leur façon de vivre, et qui est très inspirante.
Cette connexion à la nature là, qui vous ressource, vous en parliez déjà tout à l'heure, comment aujourd'hui vous continuez à l'exercer, en fait, comment vous continuez à vous connecter à la nature ?
Alors j'aime aller marcher, donc quand j'ai besoin, je vais marcher tôt le matin, donc je peux être, alors il fait nuit en ce moment, mais il m'arrive d'aller marcher au Vésinet ou dans la plaine de Montesson à 5h, 5h30 pour marcher une demi-heure, trois quarts d'heure, et ça me ressource. Et puis autrement, c'est j'aime beaucoup faire de la voile, naviguer. Et donc, quand je fais du bateau, plus rien n'existe. Je suis sur l'eau et avec les éléments, avec la mer, le vent, le soleil, les oiseaux, et j'oublie tout.
C'est ainsi que vous rechargez vos batteries ?
Tout à fait. C'est vraiment être le nez au vent. Mon téléphone justement est bien rangé dans une pochette et je l'oublie complètement et voilà, j'essaye de j'oublie tout.
Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose sur le bonheur ?
Justement, vous qui en avez fait une spécialité et qui savez aussi ce que c'est que la politique, à votre avis, quel est le secret pour être heureux en politique ?
Alors, à mon tour. Alors, je vous pose la question ou c'est une question que vous me posez ?
C'est une question que je vous pose.
Ah, d'accord.
Je triche un peu.
le secret en politique, alors j'ai suivi attentivement l'émission de Philippe Marconnet qui vous avait invité il y a maintenant quelques jours. Et vous avez parlé à un moment donné de cohérence. Alors dans mon métier, on parle plus que de cohérence encore, on parle de congruence. Et je pense que pour être heureux en politique, il faut être congruent. Alors c'est un mot qui n'est pas très joli, mais qui est en même temps tellement puissant. C'est-à-dire la congruence, c'est cette capacité d'être totalement aligné entre ses valeurs, ses croyances, ses pensées, sa parole et ses actes. Et à ce moment-là, disait Gandhi, rien ne peut vous arrêter. Et donc je pense que s'il y a un secret, c'est peut-être celui-ci, c'est de rester vraiment soi-même. C'est un jeu de beaucoup de paraître, en fait, le jeu de la politique. On parle aussi beaucoup de posture, etc. Et à un moment donné, je crois que certains se jouent finalement avec une distinction, une différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de montrer. Et je pense qu'en politique, elles sont ceux qui ont le plus réussi à nous laisser une trace vraiment importante et durable, et avec une image très positive qui reste, quels que soient finalement les courants, ce sont ceux qui ont su rester eux-mêmes. Et je pense que c'est ça. Voilà, je vais essayer de répondre succinctement, parce que c'est une question qui est très profonde. Mais pour moi, voilà, c'est d'être congruent, d'être vraiment toujours aligné avec soi-même. Tant qu'on est en phase avec soi-même, alors ça peut amener une rupture, ça peut amener une incompréhension, peut-être, ça peut nous amener à quitter, pourquoi pas, son parti ou son courant, mais en tout cas, ça nous permet de rester nous-mêmes et de continuer à gagner la confiance des électeurs qui ont besoin de que les personnes traduisent de façon, dans leur vie, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, d'être soi-même, en fait. Et donc, ça ramène un peu mon métier, qui est aussi d'accompagner les personnes du paraître à l'être, finalement. C'est un chemin de vie aussi, qui fait qu'on là, on va gagner cette sagesse et cette bonne relation qu'on a avec soi-même, pour revenir sur le thème de tout à l'heure. Mais je ne veux pas trop parler, parce que j'aime que ce soit mes invités qui parlent, en fait. Et j'avais envie de passer à une petite séquence surprise. J'ai composé comme un jeu de mots, comme ça, un jeu de cartes sur des mots du bonheur. Et je vais vous demander d'en tirer une au hasard, une de ces cartes. Un mot va se distinguer naturellement et vous allez le regarder et me dire ce mot, en quoi il a à voir avec le votre bonheur. Donc c'est vraiment le hasard qui a choisi quel mot ou quelle expression.
Donc j'ai inscrit sur la carte « maîtrise de soi ».
Donc en quoi la maîtrise de soi peut être en lien avec votre bonheur ?
Je pense que je suis assez, assez audacieuse, parfois on pourrait dire téméraire, et parfois je m'en félicite, mais parfois je le regrette, parce que je veux parfois aller trop vite, trop loin, trop fort. Et à mon sens, il faut réussir à gagner justement en maîtrise de soi pour ne pas partir dans une mauvaise direction, ou ne pas nuire à autrui par excès d'enthousiasme. Donc se maîtriser pour rester voilà, dans cette... dans cet univers le plus harmonieux possible.
D'accord, merci. Pas facile, hein, cette séquence.
Pas facile, non.
Merci beaucoup, on arrive finalement à la fin déjà de cette émission. Elle est très rapide, elle est plus rapide que celle de mon ami Yannick Marconnet. Et je termine toujours par un conte de sagesse ou par un texte. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est l'enfant, nos enfants, les enfants en général, et l'enfant que nous avons en nous aussi. Et j'avais envie de partager un texte qui est extrait d'un livre d'Alain Serres et d'Aurélia Fronti qui s'appelle « J'ai le droit d'être un enfant ». J'ai trouvé tellement joli que j'avais envie de le partager avec vous et avec nos auditeurs. Je suis un enfant avec des yeux, des mains, une voix, un cœur et des droits. J'ai le droit d'avoir un nom, un prénom, une famille qui me sourit, un pays où je suis chez moi. J'ai le droit d'avoir à boire et à manger pour bien grandir. Ce que je préfère, c'est l'orange. On la boit et on la mange. J'ai le droit de vivre sous un toit, au chaud, mais pas trop. Loin de la misère, avec rien de plus, mais avec tout ce qu'il me faut. J'ai le droit d'être soigné avec les meilleurs médicaments que les humains ont inventés. Et de courir, sauter, grimper, crier. Oh, quelle est belle ma santé! J'ai le droit d'aller gratuitement à l'école pour apprendre comment volent les oiseaux, les avions ou les graines de coquelicot. J'ai les mêmes droits à égalité que je sois une fille ou un garçon. Les filles et les garçons, c'est la même famille, c'est la même chanson. J'ai le droit d'être respecté, que je sois noir ou blanc, petit ou grand, riche ou pauvre, né ici ou ailleurs. J'ai le droit d'être aidé par mes parents, mes amis, mon pays, si mon corps ne fonctionne pas comme celui des autres. J'ai le droit de ne jamais subir aucune forme de violence et personne n'a le droit d'abuser de mon enfance. Personne. J'ai le droit de refuser d'aller au travail plutôt qu'à l'école. C'est quand j'aurai appris beaucoup de choses que je choisirai un métier. J'ai le droit d'être protégé par les adultes, bien à l'abri des catastrophes, sous un grand parapluie, s'il pleut trop d'eau ou de malheur sur ma vie. J'ai le droit de ne jamais connaître l'orage des armes et la guerre, et j'ai tellement peur des missiles éclairs ou des bombes tonnerres. J'ai le droit de respirer de l'air pur, pur comme le bleu du ciel et le blanc de la banquise. J'ai le droit de jouer, de créer, d'imaginer, de faire des grimaces et des cabrioles. Et d'avoir des copains aussi, parce que danser tout seul, c'est pas drôle. Hein. J'ai le droit d'apprendre l'amitié, la paix et le respect de la planète, de chaque humain qui l'habite, de chaque animal qui la peuple, de chaque plante qui la nourrit. J'ai le droit de m'exprimer en toute liberté, de dire ce que je pense sincèrement, sans blesser les autres, bien sûr. J'ai le droit d'avoir tous ces droits parce que mon pays a signé la Convention internationale des droits de l'enfant comme 192 autres pays et que, justement, je suis un enfant. Pourtant, quand chaque enfant du monde pourra-t-il voir tous ses droits respectés? Demain? Après-demain? Dans 20 ans? Mais les droits de l'enfant, c'est maintenant. Car c'est maintenant qu'on est des enfants. Alors c'est à la femme de justice que s'adressait aussi ce texte, à la mère aussi, et voilà, elle est lui qui va dans les écoles aussi pour écouter les enfants et leur parler de ce que c'est que la citoyenneté.
Non, c'est un très très joli texte qui fait beaucoup écho, et effectivement j'ai le droit d'être un enfant, et quand on est un enfant on a des droits, et nous avons des devoirs vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des générations futures, et nous avons le devoir aussi de les protéger, de les éduquer, de les accompagner, de les guider, enfin tellement de devoirs à leur égard. Et c'est vrai que c'est abyssal en fait, mais c'est très 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 beau.
Et nous avons aussi, plus que le droit, mais cette obligation de retrouver l'enfant qui est en nous aussi. C'est le meilleur moyen de les comprendre aussi et les aimer. N'oublions pas que nous sommes des enfants dans les corps d'adultes. Eh bien, c'était Jean-Marie Marcos et
Yael Braun-Pivet
pour Invitation au bonheur. Alors je vais maintenant partager non pas un titre de ma propre playlist du bonheur, mais un nouveau titre partagé aussi par Yael. C'est Of Monster and Men, Little Talks. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour Le Bonheur en question à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, ensemble, soyez heureux.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
Cause though the truth may